Domingo, cadê?
C'est pas du vent. C'est pas du vent.
Cadê?
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, à force de considérer le sol comme un simple support sur lequel nous pouvons bâtir, cultiver, rouler ou dans lequel nous creusons pour extraire des matières premières, nous avons déjà modifié les trois quarts de la surface terrestre de la planète. En mars dernier, l'IPBES, la plateforme intergouvernementale des experts sur la biodiversité, nous alertait sur le fait qu'à ce rythme, seuls 10% des terres seront encore vierges d'activité humaine en 2050 et pour l'essentiel, ce sont des déserts, des toundras ou des régions polaires. Cette dégradation des terres est une véritable bombe à retardement qui a déjà commencé à exploser dans certaines zones du monde. Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Notre studio est installé dans les locaux de l'Agence française de développement à Paris à l'occasion des 20 ans du CARI, le Centre d'action et de réalisation internationale. Bonjour Patrice Burger.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de cette association dont l'objectif est et a toujours été de fédérer justement autour de l'enjeu de la dégradation des terres. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'on appelle des terres dégradées et quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui ?
Alors d'abord, le phénomène est un phénomène planétaire. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas seulement la question des déserts hyper arides, mais c'est un vrai processus de dégradation des sols, particulièrement des sols. Et la dégradation des sols, elle est multifactorielle, c'est-à-dire que c'est à la fois un mauvais fonctionnement de l'eau dans les sols, une baisse de la fertilité. Pour l'essentiel, la dégradation des terres est essentiellement conduite par les activités humaines inappropriées. On a par le passé beaucoup évoqué le surpâturage, mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont en ligne de compte, notamment des mauvaises pratiques agricoles. L'agriculture est une activité importante sur les terres et l'utilisation massive de produits chimiques, l'utilisation très intensive de matériel agricole inapproprié dans des régions chaudes, par exemple, où les sols se transforment très rapidement. Une biodiversité faible qui ne permet pas d'alimenter la microbiologie des sols. Toutes ces choses-là contribuent à une dégradation progressive de la vie des sols. En fait, ce dont il est question, c'est de la vie des sols.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en fait, le sol est vivant sur une surface assez fine, finalement.
Oui, en fait, sous nos pieds, on a un monde vivant qui fabrique beaucoup de choses, qui fabrique finalement la vie. C'est une matrice de vie. Et dégrader les sols, c'est dégrader la vie. Et c'est aussi ruiner notre propre avenir en tant qu'espèce vivante et dépendant du monde biologique. Donc la dégradation des terres, souvent appelée la désertification, c'est quelque chose qui nous touche au plus près. Et vraiment, ce sont des idées de reçues, de penser que ça ne touche que les zones extrêmement arides. C'est dans le monde entier et il est plus que temps de réagir.
Et c'est surtout les continents. Et quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui par rapport à la surface des terres émergées ?
Alors, on estime qu'aujourd'hui, dans le monde, 40% des sols du monde sont dégradés, peut-être même plus. Et ça touche aussi beaucoup de pays qui sont en développement et qui n'ont que leurs ressources naturelles, ou beaucoup de gens vivent encore de leurs ressources naturelles pour assurer leur propre développement.
Bonjour Monique Barbu.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. C'est l'une des trois conventions avec celle du climat et de la biodiversité qui ont été créées par les Nations Unies en 92. Et alors la dégradation des terres ne cesse d'augmenter, hein, Patrice Burger le disait, là, sur tous les continents. Or avec la croissance démographique, il va falloir de plus en plus de nourriture dans les années à venir. On va dans le mur ?
On va dans le mur, non. Moi, je ne souhaite pas présenter les choses comme cela, parce que la grande différence peut-être entre cette convention et les deux autres, c'est que c'est facile aussi de réparer des sols dégradés. Donc, on va dans le mur si on continue à faire semblant de ne rien voir, mais c'est possible aussi d'inverser les tendances avec des multiples bénéfices, aussi bien sur notre climat que sur notre sécurité alimentaire.
Alors, on viendra sur les solutions tout à l'heure, mais sur le constat, aujourd'hui, quand même, la situation est...
Aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur les 193 pays membres de la Convention, 193 pays, c'est l'ensemble de la communauté internationale, vous en avez plus de 160 qui se sont déclarés affectés par les questions de désertification. Donc on est loin de l'image qu'on a voulu donner au départ, d'une image africaine, si vous voulez, de cette question-là. Cette année, par exemple, la Norvège a dû importer du foin pour nourrir son bétail, parce que les sécheresses ont été telles que ce pays n'a pas pu faire face à ses propres besoins. En France, on considère que environ 20% des terres agricoles sont dégradées. Donc oui, on est sur un constat mondial, avec des répercussions qu'on ne sent pas, bien évidemment, de la même façon. Pour certains, c'est leur existence même. Et pour d'autres, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des périodes de sécheresse de plus en plus longues, bien entendu suivies de pluies qui ont des effets dévastateurs tout autant que la sécheresse. Et c'est ce qu'on voit arriver un peu partout dans nos pays aujourd'hui.
Oui,
et
puis dans les pays subsahariens, l'économie repose à plus de 80% sur l'exploitation des terres, justement, pour assurer les moyens de subsistance. Donc la situation devient rapidement critique.
Alors, si vous prenez le cas de l'Afrique, il est clair aujourd'hui que vous avez une multitude de petites exploitations. Il faut savoir qu'en Afrique, la taille moyenne d'une exploitation agricole, elle est de moins de 2 hectares. Et lorsque vous avez 3 années de sécheresse d'affilée sur 2 hectares, vous avez tout perdu. Et donc, vous avez 80%, par exemple, de la population du Sahel qui vit encore dans les zones rurales. Et si ce processus de dégradation continue, eh bien, ces populations, elles n'ont qu'une seule échappatoire, c'est de migrer vers les villes et plus loin si de besoin, en créant, bien évidemment, un certain nombre de conflits sociaux, de conflits culturels. On parle, par exemple, nous, des questions de migration à l'échelle européenne. Mais voyez, par exemple, la situation autour du lac Tchad. Autour du lac Tchad, vous avez eu, dans les 10 dernières années, 17 millions de Nigériens qui ont dû migrer du nord du Nigeria vers le lac Tchad, sur une zone qui, elle, est passée de 18 000 km² à 1 800 km². Imaginez les conflits que cela crée. Enfin, Boko Haram, ce n'est pas né d'une vue de l'esprit, c'est né de problèmes très concrets qui sont liés à l'utilisation des terres et aux conflits entre les différents utilisateurs de ces terres autour du lac Tchad.
Alors l'Afrique, justement, on a plusieurs représentants de ce continent avec nous aujourd'hui. Bonjour Fama Touré.
Bonjour.
Vous travaillez à l'Agence régionale de développement de la région de Louga, c'est dans le nord-ouest du Sénégal. Est-ce que vous constatez la dégradation des terres dans votre région ?
Bien sûr, absolument. C'est un phénomène auquel on est confronté tous les jours, surtout avec actuellement avec les changements climatiques. Donc le processus est accentué. Donc il y a les facteurs naturels, mais également il y a les facteurs anthropiques. Patrick en a parlé tout à l'heure. Vous savez, donc avec le sol, ça constitue un facteur de production très déterminant. Donc cette dégradation des terres quand même a pour conséquence la réduction de la productivité. Donc voilà, c'est une des conséquences vraiment.
Et ça se traduit comment ?
Ça se traduit par l'accroissement de la pauvreté tout simplement. L'accroissement de la pauvreté, donc, et également le phénomène de la migration. Nous le constatons également, ça
comme
pousse
le
vers
Monique
le
voilà, à l'instant.
Absolument, c'est un fait. Donc il y a l'exode rural déjà. Nos villes sont vraiment surpeuplées, mais également il y a ce phénomène-là de la migration vers l'Europe et vers les Amériques.
Parce qu'à partir du moment où la terre n'est plus cultivable, on ne peut plus se nourrir.
C'est ça. Donc les populations avaient des habitudes alimentaires. si on prend déjà, par exemple, le cas du Ferlo, donc c'était, ça se trouve un peu dans la basse vallée donc, du fleuve Sénégal. Avant, c'était très arrosé. Il y avait le fleuve Sénégal qui drainait donc, cette partie. Il y avait la verdure, il y avait vraiment des ressources. Mais avec l'installation donc, de le Manantali, du barrage, il y a des retenues d'eau qui font que donc, c'est, maintenant, ces vallées sont asséchées. L'avancée du désert, c'est un phénomène qu'on observe également. Vous savez, on est un peu très... C'est une zone située au nord et donc très proche de la Mauritanie, avec les dunes donc, qui avancent surtout. Ça fait que vraiment, les ressources n'ont pas le temps de régénérer naturellement. Parce que les populations, il y a cette pression qui est exercée. Au mois de juin, avant l'arrivée des pluies, on a assisté à une situation très, vraiment dramatique. Les populations étaient obligées d'élaguer les arbres pour pouvoir nourrir le bétail. Parce que mais il y avait plus de nourriture, donc on a cette insécurité alimentaire du bétail, mais également des populations.
Nabil Benkatra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur du programme environnement à l'Observatoire du Sahara et du Sahel, qui regroupe 25 pays. Alors, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, l'une de ses missions, c'est justement d'accompagner les pays dans leur politique pour lutter contre la désertification, contre la dégradation des terres. Est-ce que c'est un sujet dont s'emparent les pays que vous accompagnez avec une vraie volonté d'agir ?
Tout à fait. Donc, je rappelle également que 20% de la population mondiale vit au niveau de ces terres dégradées et ça constitue vraiment un problème et un enjeu de taille. Alors, par rapport au constat, je prends par exemple deux pays de notre zone d'action, un pays en Afrique de l'Est et un pays en Afrique de l'Ouest. Donc, l'Éthiopie, qui est un pays qui a une superficie de 1 127 000 km², était en 1940 occupé à 60% de forêt. Début des années 2000, cette superficie n'atteint guère les 10%. Donc en 40 ou 50 ans, le pays a perdu pratiquement l'ensemble de ses forêts. Heureusement qu'il y a des activités en cours, il y a une volonté politique actuelle en cours qui fait que l'Éthiopie a engagé un vaste programme de restauration et de réhabilitation des terres. C'est également le cas en Afrique de l'Ouest. Je prendrai par exemple l'exemple du Niger. Au Niger, le pays a perdu entre 1990 et 2005, il a perdu quelque chose comme 680 000 hectares de forêt. C'est vraiment considérable si on considère que ce pays-là, il y a 20 millions de personnes qui vivent dans ce pays et qui tirent l'essentiel de leurs sources de revenus de l'agroforesterie. Donc perdre ce capital-là, c'est une vraie perte, c'est une perte sèche. Heureusement également, il y a beaucoup de programmes et d'engagement de la communauté internationale pour aider dans ces pays-là à réhabiliter ces terres. Tout à l'heure, Madame Barbu a parlé de la possibilité. Effectivement, nous maîtrisons les paquets techniques pour la restauration des terres. Malheureusement, restaurer des terres prend du temps. Donc, ce qu'on perd rapidement en défrichant, en déboisant, on ne peut pas le restaurer rapidement. Donc, c'est un travail d'envergure et de très longue haleine. Mais c'est possible.
Sylvestre Thiem-Toré, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes coordonnateur du secrétariat permanent des ONG au Burkina Faso, qui rassemble plus de 160 ONG. Vous êtes aussi membre du RESA, d'un réseau de la société civile qui intervient donc au Burkina Faso, au Niger, au Mali et en France pour améliorer justement les conditions de vie des populations en zone aride. Alors, quel constat faites-vous au Burkina Faso ?
Ce qui a été décrit ailleurs, le Burkina n'est pas exempt de cette situation de désertification qui se prononce en dépit des efforts qui sont faits. Pour vous donner un aperçu, dans un récent rapport qui a été publié par la Banque africaine de développement, on estime, ça c'est le paradoxe, on voit par exemple qu'au même moment qu'il y a des potentialités en matière de surface cultivable, au même moment les efforts aussi anthropiques pour déconstruire, dégrader, égale parfois les efforts de construction. Alors, on estime par exemple qu'il y a 9 millions d'hectares cultivables. Donc, sur les 9 millions d'hectares, on a environ 59 qui sont exploités. Donc,
59% ?
59% qui sont exploités. Et au niveau, par exemple, des terres irrigables, parce que le pays aussi travaille beaucoup sur l'irrigation, puisqu'on n'a pas toujours de l'eau en toute saison, 3 mois de pluie maximum. Sur ces superficies qui sont irrigables, on en dénombre 233 500 hectares qui sont irrigables. Mais Même si ces potentialités existent, annuellement, on estime pratiquement à 200 000 hectares qui sont dégradés donc de par l'action de l'homme. Et sur cette dégradation, il y a encore des facteurs nouveaux qui viennent amplifier le phénomène. Vous avez par exemple la question de l'orpaillage artisanal qui utilise des produits chimiques assez graves tels que le mercure, l'acide sulfurique et qui excave aussi beaucoup de terres qu'on ne pourra pas de sitôt restaurer. Sans oublier donc le fait qu'il y a les pratiques agricoles qui ne sont pas parfois adaptées, malgré le fait que nous avons des paquets technologiques qui existent. Malheureusement, certaines de nos pratiques ne nous avancent pas vers une récupération et une restauration durable des terres parce que soit les gens utilisent des pesticides qui ne sont pas ou des herbicides qui ne sont pas homologués ou ont parfois des pratiques agricoles qui ne sont pas vraiment de nature à préserver les terres. On pourrait aussi ajouter un dernier phénomène qui n'est pas négligeable, c'est les catastrophes naturelles qui parfois viennent saper tous les efforts de restauration qui ont été consentis. Quand je vois par exemple qu'ici en France vous avez des inondations, c'est pas un phénomène isolé parce que nous avons dans certaines de nos régions cette année, notamment au niveau du plateau central, où des populations non seulement ont perdu leurs semences, leurs stocks et pratiquement leur récolte. Donc si par moment il y a des régions où on peut s'en féliciter parce que les gens auront de bonnes moissons, on va avoir des régions aujourd'hui où les gens ne vont pas du tout récolter du fait de ces catastrophes naturelles qui viennent aggraver cette situation. Donc pour dire que d'une part il y a des potentialités qui existent, mais ces potentialités sont annihilées donc par les effets de la dégradation, doublés donc de la réponse, je dirais, non adéquate parce que la réponse elle est insuffisante pour inverser la tendance actuelle.
Vous l'avez compris, la situation est assez complexe dans le domaine de la dégradation des terres à l'échelle de la planète, mais il y a des solutions que l'on explore avec nos invités juste après une petite pause musicale.
Mam daram taram zwaye la ram zubda di mam nyabda oh zwaruda oh zwani bandra la raruye
de la dégradation des terres dans C'est pas du vent sur RFI avec nos invités, un phénomène qui touche tous les continents mais qui n'est pourtant pas une fatalité. Exemple au Burkina Faso.
Moi c'est Adolphe Lankwande, je suis le responsable du programme au niveau de Mani pour ACF.
Ce que vous êtes en train de nous montrer, c'est une des techniques qui est utilisée ici pour restaurer les sols.
Oui, c'est restaurer les sols afin de pouvoir augmenter le rendement agricole. Et la technique du ZAI consiste à faire en quinconce des petits pots dans lesquels on fait un amendement afin de pouvoir rendre encore le sol plus fertile.
C'est-à-dire, là, on est sur un champ, on voit qu'il est parsemé de trous.
De trous, ouais. Effectivement, vous voyez le système.
Une quinzaine, vingtaine de centimètres.
C'est en fonction de la spéculation que vous voulez. Et vous regardez en fonction de la pente. Puisque quand il pleut, l'eau a une certaine, un certain ruissellement. Et c'est en fonction de ce ruissellement-là, on fait les pots en fonction de ça pour que au moins ce soit genre de petits impluviums. Donc en ce moment, l'eau en coulant dans ce sens, vous voyez, ça reste dans des petits trous.
Ça veut dire qu'elle s'écoule, mais elle reste contenue dans les trous qui ont été creusés dans le sol.
Et maintenant, avec l'amendement qu'il y a, donc ça permet au sol...
Qu'est-ce que c'est l'amendement?
L'amendement, c'est à base de fosses fumières. On fait de la fumure organique qu'on met dans les pots.
Une espèce de compost qui est mise au fond des trous, dans lesquels se déverse l'eau.
Se déverse l'eau.
Et ça, c'est une technique de base, mais qui n'était pas utilisée avant?
Ce n'était pas utilisé avant. Et c'est une technique qu'on vient de commencer au niveau de ce village, il y a 3 ans de cela. Et on continue avec cette même technique jusqu'à aujourd'hui.
Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de rendre des terres beaucoup plus
fertiles. Fertile. Ça, c'est plus un. Et au sol, d'avoir un peu d'humidité pendant longtemps. De conserver l'humidité pendant longtemps. Puisqu'avec les petits impluviums que ça crée, l'eau reste pendant un certain temps et ça permet au moins à la plante de pouvoir résister.
C'est quelque chose qui peut être facilement duplicable, réutilisable, approprié par tous les paysans?
Oui, par tous les paysans, effectivement. Tout le monde peut le faire puisque ça ne demande pas beaucoup de matériel. C'est juste une pioche et puis c'est tout.
Et c'est très très efficace. Vous auriez donné une échelle pour qu'on mesure à quel point ça a servi?
L'an passé, on a fait des champs tests où des terrains sur lesquels aucune technique n'a été appliquée, aucun amendement n'a été fait. Et après le rendement, on s'est rendu compte que sur les terrains sur lesquels nous avons appliqué les techniques de ZAI, le gars gagnait encore le double de ce qui est gagné sur un terrain qui n'a pas été entretenu.
D'accord.
Donc après le ZAI, nous avons les demi-lunes. Et c'est pratiquement les mêmes techniques, parce que les demi-lunes, c'est en fonction aussi de la pente.
La demi-lune, c'est une espèce de digue en forme de demi-lune qui a été créée avec la terre. Donc l'eau qui s'écoule est retenue par cette forme de demi-lune.
Voilà.
Et ça, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport aux ailes?
Au niveau du rendement, on gagne plus sur les demi-lunes que sur les ailes. Mais les demi-lunes sont pratiquées sur des terres qui sont plus encroutées que les terres sur lesquelles nous faisons les ailes.
Où la côte est plus prononcée.
Et la côte est plus prononcée. Et la demi-lune, quand vous la faites comme ça, elle est encore plus bénéfique parce que lorsque vous réalisez une demi-lune comme ça, vous avez 2 ans d'exploitation. Pendant que les ailes, chaque année, il faut répéter.
Refaire les trous chaque
année. Les trous chaque année.
Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'utiliser ces techniques d'irrigation, améliorer des sols? C'est parce qu'ici, c'est vraiment trop aride?
Puisque c'est des terrains qu'on ne pouvait pas utiliser si ce n'est pas la technique qui vient de permettre ça. On ne pouvait pas utiliser ces terrains-là. D'abord, vous voyez, elle est très encroutée. Sur un sol pareil, il n'y a plus rien qui puisse pousser. Même l'herbe ne poussait plus. Donc, il a fallu cette technique-là pour lui permettre quand même de pouvoir récupérer le sol et pouvoir améliorer aussi le rendement. Donc, il faut cette technique pour pouvoir récupérer ce sol-là. Au bout de 2 ans, vous allez voir que même l'herbe va repousser.
Vous dites que ça ne pousse plus. Ça veut dire qu'à une certaine époque, ça poussait?
Oui, à une certaine époque, ça poussait, puisque en ce moment, les gens cultivaient dessus. Lorsque maintenant le sol était tellement fatigué, ils ont abandonné. Maintenant, comme il n'y a plus de sol, la population s'est augmentée. On a oublié de revenir sur ces terrains-là pour pouvoir les récupérer. Puisqu'on ne peut plus aller ailleurs. Dans le temps, on avait le choix de... Bon, cette terre est fatiguée, je la laisse pour 2 ans, 3 ans, je continue ailleurs. Mais maintenant, ce n'est plus possible.
Un reportage signé David Bachet. Patrice Burger, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage? Les ailes, les demi-lunes sont des pratiques bien connues pour refertiliser les sols?
Oui, alors ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, un certain nombre de techniques traditionnelles existent partout dans le monde. Les paysans n'ont pas attendu, notamment les paysans qui pratiquent l'agroécologie. Ils sont très nombreux dans le monde, ils n'ont pas attendu. Ils ont des techniques qui permettent de maintenir les sols et notamment de maintenir la fertilité des sols. Parce qu'une des questions clés sur la restauration des sols, c'est la gestion de la matière organique. En fait, un sol qui n'a plus de matière organique est un sol qui est très minéralisé. C'est-à-dire ça se transforme en sable stérile. Et ça, ce n'est pas propice à l'agriculture. Et non seulement ce n'est pas propice à l'agriculture, mais en fait, dès qu'il y a une pluie, et on voit bien que dans ces pays-là, c'est alternance de sécheresse forte et de pluie forte. Et quand il y a une pluie forte qui arrive sur un sol dégradé, ça provoque des érosions massives, des glissements de terrain.
Parce que l'eau ne rentre plus dans le sol.
Parce que l'eau ne rentre plus, qu'elle s'accumule dans des endroits où elle est évaporée très rapidement. Donc la gestion de la matière organique est clé. La personne, là, elle en a parlé. Il s'agit de ramener de la matière organique. Donc tout tourne autour de ça. Ce qui est à la fois, alors là aussi, bonne nouvelle, et c'est incroyable, moi je n'arrête pas de dire que c'est incroyable que dans les questions du changement climatique, on n'ait pas pris conscience plus tôt, plus fort, que la gestion de la matière organique dans les sols est aussi une capacité importante de stocker du carbone et des gaz à effet de serre. Comment se fait-il qu'on n'a pas parlé plus tôt de ça? Et c'est une des raisons justement pour laquelle la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification qui s'occupe des terres et des sols devrait être est en fait fondatrice de toutes les choses que l'on devrait faire pour lutter contre le changement climatique. Alors ça lutte contre le changement climatique en stockant du carbone, mais ça lutte aussi contre la pauvreté en provoquant une meilleure fertilité des sols, de meilleures productions, une meilleure sécurité alimentaire. Et on n'a pas vu arriver non plus, et c'est ce que dénonçait Monique Barbu tout à l'heure, on n'a pas vu arriver non plus que la dégradation des terres dégradées, ça mène à des vies dégradées. Des vies dégradées, ça mène à toutes les instabilités. Et les instabilités, elles ne restent pas locales, elles deviennent internationales, elles deviennent mondiales. L'Europe aujourd'hui en fait l'expérience, c'est vraiment le moment ou jamais de renverser la tendance.
Monique Barbu, c'est pour ça que vous vous battez, justement, pour faire le lien entre dégradation des terres, dégradation des vies, comme dit Patrice Burger, migration.
Aujourd'hui, dans le monde, vous avez 500 millions de fermes, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui font moins de 2 hectares. Ces 500 millions de fermes font travailler et vivent 2 milliards de personnes directement. Si vous perdez ce socle, c'est aussi 80% de la population des pays en développement, pas uniquement des zones rurales, des pays en développement, qui va être affectée dans sa sécurité alimentaire. Et donc, clairement, le problème, il est extrêmement large. Dans le même temps, nous, on a fait des études sur ces questions aussi de migration, dont vous parlez maintenant, et on a en particulier conduit une étude avec l'armée britannique, qui a conclu que d'ici 2045, 135 millions à travers le monde migreront à cause de la désertification. Sur ces 135 millions, 60 millions viendront des pays d'Afrique au sud du Sahara pour aller vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Alors si aujourd'hui on n'a pas été capable de gérer 1 million de migrants par an, je ne sais pas comment on gère 60 millions. Et donc c'est des questions comme celle-là qu'on est obligé de se poser au niveau de la communauté internationale.
Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ces gens restent sur leur terre.
Alors l'objectif, c'est de dire qu'il est possible de stabiliser les populations, qui d'ailleurs n'ont pas envie de partir, hein, entre parenthèses, hein, pour l'essentiel, n'ont pas du tout envie de partir, et qui sont par ailleurs aussi un réservoir important. Enfin, il faut arrêter de prendre les jeunes comme, qui arrivent sur le marché du travail comme simplement un problème. C'est aussi une chance, une opportunité pour de nombreux pays pour pouvoir se développer. Et donc de pouvoir fixer ces gens sur leur terre. Alors moi je voudrais simplement dire par rapport à ça, en moyenne, restaurer un hectare de terre dégradée, aujourd'hui, c'est moins de $300 l'hectare. Pour vous donner une idée, quand on a fait le projet Zinder au Niger, où il y a eu quand même 2 millions d'hectares de terres qui ont été restaurés, le coût moyen de la restauration d'un hectare, il a été de $50 l'hectare. Alors, je parle simplement de restauration, je ne parle pas de replantation et autres derrière. Mais donc, on est sur des coûts qui sont des coûts dérisoires par rapport au coût social et politique de ce qu'on est en train de laisser faire.
Oui, parce que je crois que le coût d'un migrant dans un camp de transit en Europe, c'est 35 euros
par jour pour un adulte, voilà. 42 euros pour un enfant. Donc ça, c'est par jour. Et donc nous, on essaye de lancer aujourd'hui des programmes assez vastes, en particulier sur l'Afrique. Il y en a un qui s'appelle 3S pour soutenabilité, stabilité, sécurité. Et ce programme vise, en fait, c'est emploi vert contre migration.
Et donc, alors vous l'expérimentez au Niger, dans la région d'Agadez aujourd'hui ?
Exactement. Aujourd'hui, on a fait un partenariat avec la mairie d'Agadez qui nous a donné des terres sur lesquelles on installe des jeunes Nigériens qui sont tous des jeunes Nigériens qui étaient dans des camps de transit et qui, de façon volontaire, ont accepté de se réinstaller sur ces terres, conformes, qu'on rémunère, parce que effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, des terres, pour être restaurées, ça prend en moyenne 3 ans. Et donc, pendant ces 3 années-là, on les rémunère et on leur apprend les techniques locales, si vous voulez, de restauration de terre, et on les aidera ensuite à trouver des débouchés aussi pour leur production.
Donc un programme actuellement près d'Agadez au Niger, vous avez l'intention de le développer ailleurs ?
Ce programme-là, dans le même temps où on forme ces 500 jeunes Nigériens, on est en train de former 500 jeunes Maliens, toujours qui viennent de camps de transit, et qui doivent rentrer chez eux sur le même type de programme. Mais on a des projets bien plus vastes que ça. Le Burkina Faso, par exemple, ce que nous discutons actuellement, c'est de transformer 3000 des 5000 villages du Burkina en éco-villages. Et bien, 3000 villages, c'est quelque chose comme 2 millions d'hectares de terres qui vont être restaurées et sur lesquelles on va aussi fixer des populations, puisque les premiers projets pilotes qu'on monte au Burkina sur ce vaste programme présidentiel sont toutes dans le Sahel, qui sont des zones fortes de migration.
Fama Touré, vous travaillez au Sénégal, dans la région de Louga, c'est dans le nord-ouest du pays. Est-ce que vous aimeriez, j'imagine, faire des programmes dans votre région comme ceux dont Monique Barbu parle ?
Mais absolument, parce que d'autant plus que nous, on connaît ce projet des éco-villages. On a même l'Agence nationale des éco-villages.
Oui, il y en a au Sénégal.
Voilà, il y en a au Sénégal, et c'est en vigueur. Hein. Donc, c'est un projet d'une importance capitale. Hein.
Ça marche bien au Sénégal ?
Oui, il y avait des débuts de projet. On entend, il y avait des financements avec la JICA, qui intervenait même à Louga et qui mettait en place des projets donc autour des villages pour un peu permettre la restructuration et la redynamisation, donc surtout la restauration des terres avec l'utilisation des ressources les bouses de vaches qui sont utilisées, c'est pour l'énergie, avec le biodigesteur. Donc c'est un projet qui mettait en valeur ces ressources-là. Donc également, il y a la Grande Muraille Verte également qui intervient et qui accompagne. Au début, c'était des reboisements tous azimuts qu'ils mettaient en place, mais maintenant, il y avait cette approche de lutte contre la pauvreté qui est très très importante. Et la Grande Muraille Verte mène des activités avec les groupements de femmes, des activités comme des jardins polyvalents. Ils mobilisent vraiment les jeunes et les femmes autour des jardins où ils cultivent les maraîchages et tout ça pour permettre d'avoir des activités génératrices de revenus et tout ça dans le sens de lutter contre la pauvreté. Alors, il y a énormément de projets. Il y a le Fonds vert climat également qui intervient ici au Sénégal et nous actuellement au niveau donc on a un comité régional pour les changements climatiques. On est en train d'élaborer, de mettre en place des projets qui seront financés donc par le Fonds vert climat.
Alors Patrice Burger, la Grande Muraille Verte, c'est vrai que c'est un projet dont on entend parler depuis des décennies, mais qui depuis quelque temps a pris un virage vraiment important et qui est en train de renaître et de devenir extrêmement puissant.
Alors d'abord, l'initiative de la Grande Muraille Verte du Sahara et du Sahel, nous on a toujours considéré que c'était une initiative absolument formidable, mais qui n'avait pas jusqu'à présent bénéficié de la considération et du soutien nécessaire. D'abord, c'est une initiative qui repose sur une sous-région qui a grosso modo des problématiques similaires, qui a une géographie, je dirais, significative, qui comporte un ensemble de pays et donc en termes de dimension, en termes de population de couverte, en termes de village, est tout à fait intéressante. Nous pensons qu'effectivement cette initiative devrait être beaucoup plus largement promue, et ce que vient de dire Madame Barbu, c'est-à-dire quand on parle d'une échelle de plusieurs centaines, voire milliers de villages, là on est à la dimension de la Grande Muraille Verte. Longtemps elle a été, je dirais, mal comprise, là encore, on pensait que c'était une grande barrière d'arbres. Non, c'est pas ça. C'est une multiplicité d'initiatives de développement à l'échelle des territoires et des territoires villageois qui impliquent des communautés. Voilà ce qu'il faut faire. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut travailler avec les populations à la base. C'est-à-dire le système de simplement top-down ne marchera pas dans cette initiative-là. Mais à partir du moment où on s'intéresse à l'échelle des terroirs, à l'échelle des villages, on peut y arriver. Je parle aussi du fait qu'il faudrait, de notre notre point de vue, développer là une véritable assistance et un appui à toutes les techniques agroécologiques, c'est-à-dire d'une autre agriculture qui permette aux agriculteurs à la fois d'utiliser leurs techniques traditionnelles qui sont les plus pertinentes, mais aussi les dernières connaissances scientifiques en matière de gestion des terres, d'économie d'eau particulièrement, et de gestion de la fertilité.
Nabil Benkatra, voilà un beau projet pour l'Observatoire du Sahara et du Sahel.
Effectivement, l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a été proposée par les chefs d'État de la région donc en 2005 a été adoptée par l'Union africaine en 2007 et l'Observatoire du Sahara et du Sahel a beaucoup contribué justement à donner un contenu à cette initiative, à cette volonté politique.
Au-delà du contenu de la volonté politique, il faut que ça aille dans les champs maintenant, il faut mettre de l'argent. C'est ce que dit Patrice Burger.
Tout à fait, tout à fait. Donc, pour créer un vrai changement, donc les solutions, on l'a vu, existent. Le constat est alarmant. Et pour avoir de vrais résultats sur le terrain, il faut mobiliser beaucoup de moyens.
Alors, c'en est où, ça ?
Donc, je citerai à titre d'exemple le grand programme financé par la Banque mondiale, le programme SAWA pour Sahel and West Africa Programme. Donc, en appui à l'initiative Grande Muraille Verte, ils ont mis 1,1 milliard de dollars pour soutenir cette initiative. Donc, c'est une initiative sur 12 pays. Donc, ça part du Sénégal jusqu'à Djibouti. Et c'est des projets d'investissement sur le terrain en moyenne d'environ 100 millions de dollars pour chaque pays. Rien que pour une phase qui va de 2014 à 2019, la phase en cours. Et puis, il y aura certainement d'autres phases pour dire que ce changement de cap, ce shift qu'il faut atteindre sur le terrain ne peut pas se faire également avec des petits moyens. Il faut également la mobilisation de beaucoup de ressources, de beaucoup de partenaires. Tout à l'heure, nous avons parlé du Niger. Donc, il y a effectivement une volonté politique. L'État nigérien met de l'argent et fait de la restauration des terres et du reboisement un programme fédérateur. Et on a tous entendu parler de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et donc ça se fait notamment à travers les programmes de restauration et de réhabilitation des terres dans lesquels on trouve l'implication de beaucoup de partenaires. Il y a la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD qui finance beaucoup de projets. Donc c'est pas une affaire d'un seul partenaire, mais c'est d'avoir une politique nationale dans laquelle doivent s'insérer tous les partenaires de développement et il faut mettre les moyens qui doivent être à la hauteur des attentes.
Et des moyens, il y a des innovations dans ce domaine, on en parle juste après une petite pause musicale.
من أكبر النمدة
La dégradation des terres dans C'est pas du vent sur RFI avec nos invités. Plus de 75% des terres émergées de notre planète sont devenues désertiques, ont été polluées, ont été déboisées ou ont subi les conséquences d'une agriculture chimique ravageuse pour les écosystèmes qui font pourtant la richesse des sols. Monique Barbu, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Le problème, c'est que ça rapporte moins d'argent que le développement des énergies renouvelables, par exemple la lutte contre la dégradation des terres, mais vous avez créé récemment un fonds justement pour faire venir de l'argent sur tous ces projets.
L'argent, il y a plusieurs sources hein, déjà qui existent. Je dois quand même rappeler que le premier financeur de la Grande Muraille Verte, ça a été le Fonds pour l'Environnement Mondial, puisque ça a été le seul qui n'a pas été cité que je présidais, donc je tiens quand même
remettons les choses à leur place, voilà.
Le dire. Et effectivement, nous avons décidé d'aller une étape plus loin. On parle constamment du secteur privé, de qu'est-ce que peut faire le secteur privé dans tous ces financements internationaux. Et nous avons pris le pari d'intéresser des investisseurs privés sur investissez dans des terres dégradées. Fallait oser quand même. Et en fait... Natexis, enfin Mirova, qui est la filiale fonds d'investissement impact de Natexis, a relevé ce pari. Et nous venons donc de lancer, maintenant il est officiel, ses premiers projets vont démarrer maintenant, le premier fonds de très grande ampleur, public-privé, qui va travailler sur ces questions-là. Alors, ce fonds, il a été... annoncé au One Planet Summit donc à New York il y a 15 jours et un des grands financeurs publics de ce fonds est l'Agence française de développement, je dois le dire, nous y sommes voilà. Mais vous avez des compagnies d'assurance, vous avez des banques, vous avez des fonds de pension qui ont accepté de mettre des ressources sur des projets qui vont être des projets qui vont réhabiliter des terres, bien entendu à des fins productives, hein, parce que c'est un fonds qui doit avoir une rentabilité en bout de course, mais qui part sur le fait que ces gens-là acceptent de travailler, les porteurs de projets acceptent de travailler au départ sur des terres qui sont dégradées.
Alors il y a 10 grands projets qui ont déjà été sélectionnés.
Oui, il y a une dizaine de grands projets sélectionnés. On a un portefeuille qui n'est pas très compliqué à développer. Dans le même temps, c'est vrai que souvent, et ça, c'est ce que je voudrais aussi dire, c'est que souvent, les gens ont des idées, mais entre l'idée et le vrai projet qui est bancable et qu'on peut présenter à des institutions, il y a un vide. Et il faudrait pouvoir combler ce vide aujourd'hui de tout ce qui est préparation de projet. Lorsque vous avez un projet qui arrive à maturité, je n'ai jamais vu qu'un tel projet ne trouve pas de source de financement.
Oui, mais il faut réussir à le monter, ce projet. Exactement. À monter le dossier. Souvent, ça coûte cher, ça demande beaucoup de compétences.
Exactement. Et d'ailleurs, nous sommes en train maintenant de monter une facilité de préparation de projet avec les deux autres grandes conventions de Rio que vous avez citées dans votre introduction, le climat et la biodiversité, pour aider justement les porteurs de projets à pouvoir développer leurs concepts pour qu'ils deviennent bancables. Donc, certes, tous ces financements ne font pas encore les sommes qu'il faut. En gros, le programme de la Grande Muraille Verte dont vous parliez tout à l'heure, si on mettait bout à bout tout ce qu'il faudrait pour y arriver d'ici 2030, il faudrait à peu près 40 milliards de dollars. Donc on est encore loin du compte. Il y a certes des bouts de ce programme qui ont été financés. Vous avez cité la Banque mondiale, la BAD, les Européens aussi ont mis beaucoup d'argent, mais il y a encore beaucoup d'innovations financières à faire pour arriver jusqu'au bout.
Oui, mais comme vous le disiez, le coût de l'inaction risque d'être pire que le coût de l'action. Patrice Burger.
Oui, moi je voulais simplement réagir à ce que vient de dire Mme Barbu. Elle a tout à fait raison quand elle dit que la difficulté, c'est l'organisation des acteurs et le montage du projet. Nous, on prétend au CARI, avec ses partenaires, que rien d'important ne peut se faire sans la société civile. Mais aussi, il faut réunir l'expertise de montage de projet. Et une des choses que nous avons faites avec le mécanisme mondial, qui est donc un organe subsidiaire de la Convention désertification, nous avons lancé dans 5 pays sahéliens un module de formation des collectivités locales. Ces collectivités locales qui sont là sur le territoire, qui gèrent des territoires entiers, mais qui souvent n'ont pas les moyens et quelquefois pas non plus les ressources humaines, nous les avons aidés à monter une véritable procédure, une méthodologie pour être capable de l'idée de projet jusqu'au montage et jusqu'à sa capacité d'être un projet bancable, un renforcement des capacités. C'est ce que nous avons appelé le module Formaction. Nous avons de grands espoirs de pouvoir diffuser ce modèle parce qu'aujourd'hui, aussi bien, je dirais même au niveau des États, que ce soit les États, que ce soit les collectivités, que ce soit les ONG, c'est là où le bât blesse. Comment on monte des projets qui sont finançables et recevables par des bailleurs de fonds. C'est un vrai défi. Je crois que l'organisation des acteurs et ce travail-là est un travail clé qu'il faut mener massivement. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas vrai. Les financements existent, mais tout financement, les bailleurs de fonds, ce qu'ils veulent, c'est avoir des projets crédibles dans lesquels ils peuvent mettre leur argent avec une certaine, bien sûr toujours un certain risque, mais aussi avec une certaine sécurité. Donc moi j'insiste là-dessus, c'est vraiment là où il faut aujourd'hui faire. Les techniques existent.
Patrice Burger, ça fait 20 ans que vous vous battez, plus même, pour la lutte contre la dégradation des terres. On fête les 20 ans du CARI cette semaine. Vous restez optimiste face à cet enjeu ? Vous gardez la foi ? On l'entend en tout cas, mais...
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les temps présents nous confortent dans les options et les orientations qu'on a prises il y a 20 ou même il y a 30 ans. Les ressources naturelles, les terres, sont fondatrices de tout le développement et je dirais de notre vie biologique. Nous avons là-dessus à faire tous les efforts. C'est un choix qui est fondateur pour tout le reste. Et oui, je pense que peut-être plus que jamais, aujourd'hui, les choses sont claires. Les choses sont absolument claires et elles le sont pour tout le monde. Jusqu'à présent, il y a un certain nombre de sociétés qui pensaient échapper à ces logiques de base, on voit que cela nous rattrape et que les effets longue distance des dégradations, de la grande pauvreté, nous rattrapent. Et je pense que, Churchill disait à un moment donné, le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. L'important, c'est de continuer le combat. Je pense qu'il avait raison.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio dans les locaux de l'Agence française de développement à Paris et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.